frère Romaric Morin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dominicain de la province de Toulouse, ancien élève de l'ENS Lyon. Vous êtes maître des novices à Marseille et vous avez longtemps été supérieur de la Sainte-Baume. C'est un site donc qui abrite la grotte où la tradition dit que Marie-Madeleine a fini ses jours. Et donc vous allez nous parler de la conversion de cette sainte que vous connaissez bien. Et nous écoutons avec autant d'intérêt que d'attention.
Merci Faustine. Et je vous propose de commencer en nous recueillant et en nous confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, trône de la sagesse, Notre-Dame, Mère du bel amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est une joie de venir vous parler de Marie-Madeleine, qui est une figure évangélique qui m'est particulièrement chère, et notamment, effectivement, comme cela vous a été annoncé, parce que j'ai eu la grâce de passer 3 ans à la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, c'est un petit sanctuaire, très important en réalité, mais petit quant à son volume, dans le Var, le lieu où, selon la tradition, une tradition vénérable, respectable et tout à fait honorable, Marie-Madeleine a passé la fin de sa vie. C'est lié à toute cette tradition qui nous dit que un groupe de premiers disciples est arrivé en Provence au lieu des Saintes Marie de la Mer, et c'est de là que se répartit la toute première évangélisation de la France. Ça peut se discuter historiquement, mais en tout cas, il y a là une très belle tradition et de beaux éléments, de belles raisons d'y adhérer. Toujours est-il qu'à la Sainte-Baume, Sainte Marie-Madeleine est particulièrement vénérée, et pour ceux qui y sont passés, c'est l'occasion d'apprendre à connaître cette figure. Qu'il est toujours bon de connaître, même si je tremble de vous en parler, alors pour 2 raisons. La première, c'est que venant de Marseille, un groupe de catholiques marseillais, quand ils sont 10, c'est bien, 15, c'est un succès, 20, c'est un triomphe inespéré. Donc je m'attendais plutôt à une causerie confidentielle au coin d'un canapé, on allait être 5, 6, tranquillou, et je découvre qu'en fait, il y a un peu plus de monde que ça. Donc ça c'est déjà bien. Et l'autre raison pour laquelle je tremble, c'est qu'en fait, le sujet qui m'a été proposé, la conversion de Marie-Madeleine, est un sujet piège. La formulation même est problématique et met les pieds dans le plat directement dans une des controverses exégétiques les plus sanglantes qui soient. Alors, de quoi s'agit-il ? Si nous nous en tenons strictement à ce que l'Évangile nous dit de Marie de Magdala, puisque Madeleine vient de Magdala, si nous nous en tenons strictement à ce que dit l'Évangile de Marie de Magdala, on ne sait quasiment rien d'elle. L'Évangile ne nous parle de Marie-Madeleine qu'une 12aine de fois, 80% pour préciser qu'elle est au pied de la croix et auprès du tombeau et qu'elle voit le Christ ressuscité. Et Luc, au chapitre 8e, apporte quelques précisions complémentaires en disant donc que Marie de Magdala est une femme de qui le Christ a chassé 7 démons et qu'elle assiste le Christ de ses biens. C'est tout ce qu'on sait de Marie-Madeleine. C'est léger pour parler de conversion. C'est juste le problème. C'est-à-dire que si on s'arrête à ça pour parler de Marie-Madeleine et de sa conversion, on peut dire, oui, il y a les 7 démons, donc on peut faire un grand discours sur les 7 démons. Sauf que les exégètes qui tiennent que Marie-Madeleine, c'est que Marie de Magdala avec ces quelques éléments-là, appuient entre autres leur argumentation pour dire, les 7 démons, c'est simplement une allusion à des troubles psychiques, physiques de Marie-Madeleine, surtout pas à des péchés ou à des vices, donc rien à voir avec une conversion. Donc on est vraiment très démunis pour parler de la conversion de Marie-Madeleine. En gros, parler sur cette base-là de la conversion de Marie-Madeleine, c'est aussi excitant que de vous parler de la conversion de l'apôtre Thaddée. Oui, ça excite à peu près la même passion. Alors peut-être qu'il y a parmi vous un Thaddée qui en fait a une grande dévotion pour Thaddée, et voilà. Là j'en suis confus, mais honnêtement on n'a pas grand-chose sur Thaddée. Si en revanche, et en nous ouvrant à un vaste courant de la tradition occidentale, nous identifions Marie-Madeleine à deux autres femmes de l'Évangile, alors il en va autrement. Deux autres femmes, en l'occurrence celle que l'on appelle Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, pour la situer, c'est la sœur de Marthe et Lazare. Et l'autre femme à qui la tradition assimile aussi Marie-Madeleine, c'est la pécheresse pardonnée, cette femme qui vient pleurer sur les pieds de Jésus, les mouiller de ses larmes, verser du parfum, essuyer avec ses cheveux, tout ça. Alors là, pour le coup, si Marie-Madeleine, c'est tout ça, et notamment cette pécheresse pardonnée, pour le coup, il y a beaucoup à dire de sa conversion. C'est pourquoi il nous faut nécessairement commencer par dire un petit mot de cette question de une ou plusieurs femmes. Ce n'est pas l'objet ici de trancher la question, mais au moins d'avoir quelques repères. Et puis partant de là, nous nous intéresserons à la scène particulièrement emblématique de conversion qui est la pécheresse pardonnée. Et puis après, nous verrons dans un troisième temps comment finalement la figure de Marie-Madeleine se met en lumière grâce à d'autres personnages de la scène et justement à l'unité avec Marie de Béthanie et Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Marie de Béthanie et la pécheresse pardonnée. C'est clair pour l'instant ? Bien. Normalement, vous avez une feuille de plan que je vais essayer de respecter si tout se passe bien. C'est pas de la haute spéculation métaphysique comme plan, hein. Mais ça donne au moins un repère. Premier point, l'unité ou pluralité des maris. L'Évangile nous parle distinctement de trois femmes que j'ai mentionnées à l'instant : la pécheresse pardonnée, Marie de Béthanie, Marie de Magdala. Chacune est présentée séparément et jamais les évangélistes ne les assimilent explicitement. La tradition latine, à la différence de la tradition orientale, la tradition latine a assez rapidement identifié ces trois femmes, unifié ces trois femmes. Le grand unificateur, c'est Saint Léon le Grand. En réalité, l'unification date d'avant lui. Lui ne fait que développer une thématique qui est déjà présente. Le grand unificateur, c'est Grégoire le Grand, pardon, qui présente ainsi la figure de Marie-Madeleine. À partir de Grégoire le Grand, l'identification ne pose aucun problème dans l'Église latine. Jusqu'au XVIe siècle, décidément, c'est vraiment le siècle où commence à partir en vrille avec la modernité, mais c'est une autre question. Jusqu'au XVIe siècle, avec Lefèvre d'Étaples, qui est amené pour différentes raisons à retravailler la question et dit, mais en fait, on dit que c'est une même femme, mais non, il y en a trois. Lefèvre d'Étaples remet la question sur le tapis. Pour différentes raisons que nous aurons l'occasion d'évoquer, Le monde de la réforme s'engouffre dans cette hypothèse-là parce que ça arrange l'Église réformée. Du coup, en contrepoint, les catholiques tiennent farouchement l'unité des maris, à part quelques auteurs tels que Bossuet. On ne sait pas ce qui lui a pris ce jour-là, mais bon. Et petit à petit, la tendance s'est inversée. Aujourd'hui, la vulgate des exégètes et plutôt de tenir la distinction des maris. Il ne nous appartient pas ici de trancher la question. C'est pas l'objet de cette conférence, c'est pas ce qui m'a été demandé, ça aurait été passionnant, mais c'est pas ce qui m'est demandé. Quelques remarques quand même. Première remarque, il n'existe en réalité sur cette question aucune solution qui s'imposerait de façon évidente et certaine. Si cette solution existait, il y a belle lurette qu'elle se serait imposée et que le débat n'existerait plus. Donc si le débat continue à s'exciter, c'est que la question ne peut pas être tranchée comme ça. Du coup, méfiez-vous, de ceux qui affirment de façon un peu trop, et notamment sur la base simplement exégétique, de ceux qui affirment un peu trop catégoriquement et de façon rapide, oui, il y a trois femmes, ou non, il n'y en a qu'une, et c'est certain, et ça ne peut pas être autrement. les deux positions sont objectivement recevables, même s'il y en a une des deux qui a tort, nécessairement, mais on ne peut pas encore trancher. J'ai mon idée, mais ça c'est personnel. Mais les deux positions, scientifiquement, sont acceptables. Deuxième remarque, il n'existe pas de solution qui s'impose d'elle-même avec évidence à ne considérer que le donné exégétique. Dans la mesure où ni l'unité ni la distinction des Maries est formellement posée. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dans l'Évangile Marie de Magdala, c'est-à-dire Marie de Béthanie. On n'a pas une formule comme ça. Là au moins la question serait tranchée. Tout comme nous n'avons pas une formule « se tenait au pied de la croix, Marie de Magdala et Marie de Béthanie ». Ce genre de truc, ça nous aurait bien arrangé, il n'y a pas. Bon, ce qui fait qu'on ne peut s'appuyer ou on ne peut raisonner que sur la base d'hypothèses à partir desquelles on tire des conclusions plus ou moins probables. Tout au plus, les partisans de l'unité pourront-ils montrer que rien n'empêche, il n'y a pas d'empêchement absolu à l'unité des trois femmes. Et il y a même une certaine cohérence. C'est tout ce qu'on peut arriver à montrer. Inversement, les partisans de la distinction pourront seulement affirmer et démontrer que jamais elle n'est assimilée dans l'Évangile et qu'il y a quelques éléments textuels qui soulèvent des difficultés pour l'assimilation. De même que les partisans de l'unité pourront être un peu trop enthousiastes et catégoriques, les partisans de la distinction vont un peu vite en besogne et notamment faisant un passage un peu en force, ou sous prétexte qu'on ne peut pas prouver que c'est la même, alors c'est la preuve que c'est trois femmes différentes. C'est pas tout à fait juste, hein. C'est pas parce qu'on ne peut pas prouver que c'est la même que du coup elle est différente. Donc attention. Dernière remarque, on ne peut pas avoir une solution qui s'impose d'elle-même de façon évidente à ne considérer que le donné exégétique si nous les élargissons. En revanche, les arguments ou les éléments de réflexion, il en va autrement. Et notamment, si on tient compte d'éléments liés plus à la psychologie féminine en général, et la psychologie du personnage de Marie de Béthanie, de Marie de Magdala et de la pécheresse pardonnée, et si on recourt aussi à la théologie, et ce que la théologie peut voir à travers tout ça, la lumière de ces deux disciplines, pour le coup, peut donner un éclairage très différent sur cette question et permettre de trancher plus facilement le débat, en tout cas de lui apporter du poids pour le résoudre. Et en l'occurrence, pour résoudre dans le sens de l'unité des trois maris. Autant exégétiquement ça ne s'impose pas, autant avec un dessous de psychologie et un peu de théologie bien appuyée, les choses sont beaucoup, beaucoup plus cohérentes. C'est pour ma part ma position, je tiens l'unité des trois maris, c'est qu'une option, vous pouvez tout à fait penser autre chose, et en fait ça tombe bien puisque pour parler de la conversion de Marie-Madeleine, si on veut pouvoir en parler, il faut tenir que c'est une seule et même femme, sinon encore une fois, on parle de Thaddée ce soir. Voilà. Alors inutile de me poser des questions sur la conversion de Thaddée tout à l'heure, parce que je n'ai aucun élément de réponse, je vous le dis tout de suite. En plus, et s'il y avait trois Thaddée, alors ça, là, vous ouvrez des perspectives qui pourraient relancer le débat. C'est clair pour l'instant ? Bien. Voyons, grand 2, la conversion de la pécheresse pardonnée. Et nous nous arrêtons sur cette scène parce que c'est, et c'est le premier point, la scène vraiment emblématique de conversion. À la fois chez ces trois femmes, c'est la scène de conversion par excellence, et même elle fait partie des grandes scènes de conversion de l'Évangile. Je vous situe un petit peu le passage, même si peut-être que c'est clair pour tout le monde. Le Christ est invité chez un pharisien, chez un pharisien nommé Simon. Entre une femme que l'Évangile nous désigne précisément en disant une pécheresse dans la ville. C'est très important. L'Évangile parle bien d'une pécheresse et ne parle pas d'une prostituée. Pour ceux qui ont fait du grec, c'est amartolos et non pas porné. C'est vraiment une pécheresse et pas une prostituée. C'est très important parce que Marie-Madeleine est souvent assimilée à une prostituée. L'Évangile ne nous le dit jamais. Alors, ce n'est pas simplement une question de subtilité, soyons précis, mais ça change tout. Parce que prostituée, c'est un péché déjà précis. Pécheresse, c'est anonyme. Le fait que cette femme ne soit pas nommée et que son péché ne soit pas nommé signifie que n'importe quel pécheur peut s'identifier à elle. C'est comme le disciple bien-aimé au pied de la croix. La tradition nous dit que c'est saint Jean. Il n'est jamais nommé formellement par l'Évangile. Il est simplement désigné comme étant le disciple bien-aimé. Chacun peut s'identifier à lui, tout comme ici, chacun, quel que soit son péché, peut s'identifier à Marie-Madeleine. On aurait désigné le péché de Marie-Madeleine, on pourrait dire « Ah non, mais moi c'est beaucoup plus grave, ou moi c'est beaucoup moins grave, donc moi c'est différent, donc moi ça marche pas. » Ben non. C'est une femme pécheresse dans la ville, vraisemblablement, et surtout si on tient l'unité des trois femmes, une femme de la haute société, qui a des moyens, elle est capable de claquer un parfum qui coûte à peu près une année de salaire. Donc c'est pas n'importe quelle femme qui peut verser du parfum d'une année, hein. Je veux dire, c'est une année de salaire, c'est pas simplement le parfum qu'elle s'est acheté pour l'année, c'est, elle y a mis une année de salaire, donc faut des moyens. Une femme vraisemblablement de la haute société, et comme beaucoup de femmes de la haute société de l'Antiquité, bassin méditerranéen, femme aux mœurs légères, pour ceux qui veulent creuser la question, regardez la destinée de Bérénice. Bérénice, donc, qui n'est pas loin, c'est une nièce d'Hérode, une petite fille d'Hérode plutôt. Elle a eu je ne sais trop combien de maris, on ne sait pas si elle n'a pas vécu avec son frère. Enfin bon, donc ça pourrait être une pécheresse dans la vie, c'est ça ce que ça veut dire. Femme de la haute société, aux mœurs légères, déréglée, très hellénisée, donc dans la société juive de l'époque, c'est inconsidérable, inconcevable. Aux multiples aventures et dont la réputation n'est plus à faire. Elle a perdu son honneur et elle ne se soucie plus du qu'en dira-t-on. Peu importe l'attitude provocante qui est la sienne. Petit élément pour dire que justement c'est une femme plutôt de la société qui d'un certain point de vue en impose par son statut social et pas une prostituée, c'est que sinon on ne l'aurait jamais laissé rentrer dans la maison. Tout bêtement, hein. Et le serviteur lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. » Femme anonyme, au péché anonyme auquel nous pouvons nous identifier. Et cela se rejoint, ou cela rejoint le fait que Marie-Madeleine, Marie de Magdala pour être précis, est cette femme de qui le Christ a chassé sept démons. Là aussi, ces sept démons ne sont pas désignés. On ne dit pas c'est le démon de la luxure, de la gourmandise, de la colère ou quoi que ce soit. Anonymat. Et derrière la désignation des sept démons, évidemment, vous savez que le chiffre 7 est un chiffre très symbolique dans la Bible qui désigne l'idée de plénitude. En fait, c'est une femme qui est pleine de démons. Elle a en elle la plénitude du péché. Là aussi, chacun peut s'identifier à elle. C'est-à-dire, quel que soit le mien, je suis sûr de le retrouver chez Marie-Madeleine. Arrivant au pied du Christ, auprès du Christ, elle aurait dû, logiquement, intuitivement, elle aurait dû oindre sa tête. Et peut-être d'ailleurs a-t-elle commencé par cela. L'Évangile ne nous le dit pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas fait. Peut-être l'a-t-elle fait, ou bien peut-être, saisie par l'émotion, s'est-elle arrêtée dans son élan. Peu importe, toujours est-il que se produit ce qui n'était vraisemblablement pas prévu, elle fond en larmes. Littéralement, elle fond en larmes, au point de tremper les pieds du Christ. Le verbe qui est utilisé ici en grec dans l'Évangile, pour vraiment exprimer l'idée de tremper, de mouiller, est un verbe qui n'est employé que 5 autres fois dans le Nouveau Testament, pour désigner à chaque fois la manière dont Dieu fait pleuvoir la pluie sur la terre. Pour donner une comparaison, ce n'est pas juste deux petites larmes, quoi. C'est un torrent, des cataractes de larmes. Alors dans l'urgence, elle fait face à l'imprévu, et au lieu de prendre un linge qu'elle n'a pas, puisqu'elle n'avait pas prévu de laver les pieds du Christ comme ça, elle dénoue sa chevelure, geste particulièrement humiliant pour une femme en public, dans la société juive en tout cas, et elle les utilise pour essuyer les pieds du Christ. Encore une fois, elle n'a rien d'autre pour faire cela. Ensuite, emportée par son élan, eh bien, elle étreint les pieds du Christ et continue de les embrasser. Les verbes montrent bien qu'il y a une continuité dans le geste. Signe de révérence, d'humilité, d'attachement, d'amour. Enfin, elle oint les pieds, ce qui est un geste normalement réservé à l'intimité conjugale. Alors vous imaginez bien qu'un geste réservé à l'intimité conjugale, dans les milieux gnostiques qui ont fait de Marie-Madeleine la maîtresse du Christ, alors là, ils s'en sont donnés à cœur joint. Évidemment, ce n'est pas un geste de connotation sexuelle ou érotique que pose ici Marie-Madeleine. C'est vraiment un geste d'humilité où elle manifeste ici la conscience qu'elle a de son indignité. Elle manifeste à la fois son abaissement et son respect pour celui qu'elle est en train d'étreindre. Elle se reconnaît coupable et, ce faisant, elle ouvre son cœur à la miséricorde. Alors, les pères de l'Église ont très abondamment glosé sur la symbolique de cette scène. Alors, je ne vous ai pas fait je vous ai fait grâce plutôt de tout ce que les pères de l'Église ont pu faire comme commentaire, parce que quand ils se lâchent en matière de symbolique, ça peut partir, mais alors dans tous les sens. Si vraiment ça vous intéresse, vous avez, je ne sais pas si vous le connaissez, mais un très bon outil qui permet de retrouver tous les commentaires de Père de l'Église sur chaque verset de l'Évangile, un outil d'abord qui était publié sous mode de livre, qui aujourd'hui existe sur Internet, qui s'appelle Biblia Patristica. Donc les scientifiques expliqueront aux littéraires comment fonctionne Internet, et les littéraires expliqueront aux scientifiques ce que veut dire Biblia Patristica, mais normalement, vous devriez vous arranger entre vous. Voilà, normalement ça devrait s'arranger, et du coup c'est très pratique parce que vous mettez pour tel verset, donc Luc 7,40, et on vous met la liste de tous les pères et toutes les références de ce qu'ils disent. Globalement, quand même, les idées qui dominent comme commentaires patristiques, Marie-Madeleine se tient derrière, parce que nul ne peut approcher dignement de Dieu que par derrière. Vous savez que c'est la scène de Moïse en Exode, « Dieu passera et tu me verras de dos ». Le fait que les pieds soient mentionnés trois fois dans ce texte, trois fois c'est hautement symbolique, évoque bien l'humilité de Marie-Madeleine. Les larmes expriment la douleur de son repentir, c'est la contrition au sens théologique du terme. Ses cheveux qui essuient, c'est la pénitence et le pardon qui lavent les fautes. Et les baisers, l'amour renouvelé, le parfum, l'onction du Saint-Esprit. Alors partant de là, ça c'est la base commune des pères de l'Église. Puis après, ils ont glosé, multiplié les allusions avec de belles envolées chez plusieurs. Et partant de là, les pères de l'Église montrent que la conversion de Marie-Madeleine donne une signification nouvelle aux atours qui étaient les siens dans sa vie antérieure. Là où elle utilisait le parfum pour séduire, à sa grande honte, elle l'utilise désormais pour la gloire de Dieu. Tandis que ses yeux servaient à de belles œillades qui pouvaient attirer les uns et les autres, et pour convoiter aussi les biens de la terre, ses yeux servent désormais à verser des larmes de pénitence qui valent tous les sacrifices. De même, ses cheveux et sa bouche qui pouvaient servir à la séduction servent désormais à essuyer et embrasser les pieds du Christ. Donc on voit à travers cela, à travers simplement ces gestes, la conversion déjà en acte. Ce qui servait au péché sert aujourd'hui à la grâce et à la gloire de Dieu. C'est toujours clair ? Bien. La scène est assez claire, pas besoin d'en dire beaucoup plus. Mais, grand B, elle pose quand même un petit problème. Nous allons relire le texte de l'Évangile, et peut-être que vous repérez par vous-même le problème. Un pharisien l'invita Jésus à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est. » Une pécheresse. Mais prenant la parole, Jésus lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Parle, maître, répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus ? Simon répondit, « Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. » Il lui dit, « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, « Tu vois cette femme ? » dit-il à Simon. « Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. » Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour. Puis il dit à la femme, « Tes péchés sont remis. » Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés ?» Mais il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Avez-vous repéré le point très problématique de cet évangile ?
Oui. Il y a une inversion chronologique. Dans la comparaison qu'il fait au début, d'abord on pardonne les péchés, ce qui explique en fait le repentir par la suite. Alors que chez Marie-Madeleine, si on regarde ce qui se passe, c'est qu'il y a un repentir et ensuite les péchés sont pardonnés. En fait, chronologiquement.
Chronologiquement et dans l'ordre causal, même plus que chronologique, c'est une question d'ordre causal. Et c'est effectivement ça le problème. La question est de savoir si le geste de Marie-Madeleine exprime son repentir, et donc s'il est la cause du pardon qu'elle obtient ensuite, ou si le geste de Marie-Madeleine exprime sa reconnaissance, et s'il est donc ainsi la conséquence du pardon qu'elle a déjà obtenu. Tout tourne autour du verset 47, qui est le verset où il est dit « À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour, mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour. » La première partie de ce verset, par laquelle le Christ commente le geste de Marie-Madeleine, semble indiquer donc que c'est l'amour dont elle a fait preuve et les gestes qu'elle pose consécutivement à cet amour qui lui ont obtenu le pardon. À cause de cela, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé. L'amour de Marie-Madeleine apparaît ici comme la cause du pardon. Avec la réforme protestante que nous avons mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'affirmation de la justification par la foi seulement et non pas par les œuvres, cette lecture a évidemment été remise en cause. Dire que c'est les œuvres de Marie-Madeleine qui lui obtiennent le pardon et qui la sauvent, ça coince. Et donc, en s'appuyant sur le sens de la parabole des deux débiteurs qui précède et sur la finale du verset 47, « Celui à qui on remet peu montre peu d'amour », bien, certains en sont venus à renverser le lien causal. En fait, il faut comprendre tout le verset comme signifiant que c'est le pardon qui cause l'amour de Marie-Madeleine. Alors la première option, c'est l'amour qui cause le pardon, a l'avantage d'être conforme au sens littéral du texte. Mais elle est discordante avec la parabole des deux débiteurs et avec la finale du verset 47. Et en plus, il est vrai, elle pourrait octroyer une part un peu trop belle aux œuvres et faire fi de la miséricorde de Dieu. En fait, il n'y a plus besoin de miséricorde de Dieu, je fais moi-même mon propre salut. On oublierait ici la primauté de la grâce. La seconde option, c'est tout l'inverse, elle a l'avantage de l'harmonie avec la parabole des deux débiteurs, de la cohérence avec la finale du verset 47, sauf qu'elle contredit le sens littéral du verset. Il y a un petit débat, parce que le verset, quand il dit « parce que, à cause de cela, elle lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup aimé », la conjonction « oti » en grec peut avoir les deux sens, causal ou consécutif. Sauf que chez saint Luc, dans un tel contexte, c'est toujours causal. Donc ça, c'est toujours consécutif et jamais causal. Donc du coup, on ne peut traduire cela que par parce que. On peut pas faire autrement. Donc là, il y a une difficulté.
Puisque ne marcherait pas.
Non. Et justement, c'est certains essaient de traduire comme ça. Mais pour le coup, là, il y a... Ou alors, on fait dire à cette conjonction un sens qu'elle n'a jamais chez Saint-Luc dans une telle tournure. Alors, pourquoi pas? Après tout, ça peut être un apax, hein, mais il faut le justifier, quand même.
Dans le sens, si on regardait cette hypothèse, Jésus discernerait dans le geste d'amour fou de cette...
Ah ben là, vous dévoilez la fin de mon histoire. Attendez. Attendez. Vous êtes en train de me spoiler ma conférence, là. Il y a du suspense, enfin. En outre, la deuxième manière d'interpréter, donc c'est le pardon qui cause l'amour de Marie-Madeleine, soulève une petite question qui est que du coup, on pourrait comprendre, bah, si en fait... plus je pêche, plus je suis pardonné, et plus je suis pardonné, plus je suis aimé, et donc du coup c'est merveilleux. Bah, autant pêcher à fond. C'est trop sympa quand même. C'est en fait parce que la parabole des débiteurs, c'est un peu ça. Ça veut dire, mais pourquoi est-ce qu'on s'embête à pas pêcher? Allons-y à fond, comme ça on vivra à fond la miséricorde, et c'est encore mieux. Cette idée n'est pas si saugrenue que ça, quand même, parce que c'est saint Augustin qui l'a eu le premier. C'est pas simplement un pauvre petit dominicain de Marseille, c'est saint Augustin, donc il y a déjà une autorité. Et c'est le premier texte qui est sur votre feuille de texte que nous allons pas lire parce qu'il est un petit peu long. Et on retrouve, quelques siècles plus tard, Thérèse de Lisieux qui fait le même constat. Et qui s'insurge d'ailleurs en disant « c'est pas juste de dire que Marie-Madeleine, elle a pu s'aimer ». Et alors l'un et l'autre, je vous laisserai relire ces textes, l'un et l'autre arrivent à la même conclusion, et qui est très importante, qui est en fait la miséricorde qui relève le pécheur de sa chute est la même que celle qui empêche le juste de chuter. Donc du coup, tous font l'objet de la même miséricorde, pas de plus ou moins, de ce point de vue-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de pécher davantage pour pouvoir dire « comme ça, je vais davantage être aimé ». Vous pouvez simplement prendre conscience que la miséricorde de Dieu vous empêche de chuter.
Je suis sûr que mais dans la parabole, il dit pas que le pécheur est plus aimé par Jésus, il dit que le pécheur va plus aimer Jésus.
Alors, oui, mais du coup, effectivement, mais c'est la conclusion logique, c'est-à-dire que je suis plus aimé et donc je vais aimer plus ensuite, parce que plus je suis aimé, plus je vais aimer en retour.
Donc c'est la réflexion
qu'il y a de pécheur, oui. C'est pas là parce qu'il m'a été plus remis, donc je suis plus aimé, et parce qu'il m'a été plus remis, j'aime aussi davantage. C'est que l'amour est consécutif, de ce point de vue-là, il y a un plus grand amour qui me remet une plus grande faute, et du coup, la réponse à ce plus grand amour, c'est un plus grand amour. L'amour de Dieu appelant un amour proportionné en retour. C'est ça un peu la thématique que développe saint Augustin. Alors cette réponse, la réponse en tout cas, ils disent, voilà, mais de toute façon c'est la même miséricorde qui empêche de chuter ou qui relève. Cette réponse est très judicieuse, très juste, très vraie, mais ne répond pas à notre question de savoir quel est le lien causal. Il me semble ici, et... Je m'inscris dans la lignée de certains exégètes, ce n'est pas une opinion personnelle, que l'erreur est de vouloir absolument harmoniser tout le verset 47. Et il faut absolument que les deux bouts de phrase soient concordants et que tout cela soit concordant avec la parabole. Et l'erreur ici est de ne pas accepter qu'il puisse y avoir différents enseignements ou différentes lumières qui coexistent. Pourquoi ne pas admettre que le Christ ait voulu donner plusieurs enseignements à travers cette parabole et la conclusion qu'il en tire ? Pourquoi ne pas admettre que le Christ établit en réalité une causalité à double sens ? D'un côté, Marie-Madeleine aime beaucoup parce qu'il lui a été beaucoup pardonné. Et c'est le sens de la parabole. De ce point de vue, l'amour résulte du pardon et il est au prorata du pardon obtenu. D'un autre côté, c'est parce que Marie-Madeleine a beaucoup aimé qu'il lui a ôté beaucoup pardonné, non au sens, et c'est là où j'en reviens à ce qui a été évoqué juste à l'instant, non au sens où son amour est la cause du pardon, puisque la source du pardon, c'est toujours la grâce de Dieu, mais au sens où l'amour de Marie-Madeleine, accompagné du vif repentir de ses fautes, lui a permis de recevoir de Dieu un pardon proportionné à l'amour qu'elle éprouve. Et en fait, ici, c'est justement la définition exacte de ce en quoi consiste la contrition qui vient effacer nos péchés. Une sorte de pierre d'attente de la miséricorde de Dieu. Les deux sens de causalité sont donc acceptables, à condition de bien voir que le Christ prononce une sentence dont la première partie s'applique concrètement à la pécheresse, mais dont l'autre partie, tout en visant directement le pharisien, demeure beaucoup plus générale et impersonnelle. Il y a ici une sentence avec plusieurs destinataires, donc plusieurs formulations, et donc plusieurs significations qui veulent souligner la réciprocité entre la priorité absolue de Dieu, qui aime les hommes, et la bonne volonté de l'homme d'aimer Dieu en retour. Je pense qu'il nous faut arriver à tenir en fait cet échange, cette réciprocité dans l'échange, tout en tenant compte de l'idée que Dieu est toujours premier, mais il y a quelque chose de réciproque. Ce n'est pas unilatéral ce qui se passe. Éclairons tout cela en mettant en lumière plusieurs figures les unes à côté des autres. Grand 3, la complémentarité des figures. En tirant tout d'abord, grand A, quelques leçons de la figure de Marie-Madeleine, elle-même, dans le passage que nous venons de lire. Première leçon, j'en tirerai 3. Première leçon, il faut nuancer l'idée selon laquelle Marie-Madeleine se présenterait impure devant le Christ et repart totalement purifiée. Quand elle se présente devant le Seigneur, elle est déjà touchée, dans une certaine mesure, par la grâce divine. Sinon, elle n'aurait pas osé poser tous les gestes qu'elle a accomplis. Ces gestes sont à la fois des gestes de remords et de gratitude. Si Marie-Madeleine avait encore été sous l'emprise des 7 démons, elle ne se serait pas approchée. Il y a donc à la fois du remords, du repentir et à la fois la reconnaissance. Il y a déjà quelque chose d'amorcé. Pour autant, évidemment, l'amour de Marie-Madeleine, pécheresse et repentante, n'est pas identique avant ou après le pardon accueilli. Après le pardon, il se dilate et il éclate au sens fort du terme. Deuxième leçon, et ça c'est très important pour nous, si Marie-Madeleine a beaucoup péché, enfin pour nous personnellement, aujourd'hui, quotidiennement, concrètement, hein, pas simplement intellectuellement dans le cadre de cette conférence. Si Marie-Madeleine a beaucoup péché, c'est bien parce qu'elle était capable de beaucoup aimer. Qu'est-ce que le péché ? C'est la perversion d'une inclination bonne orientée vers l'amour. C'est le fait qu'il y a en moi une inclination à aimer, et à aimer le bien du coup, et que cette inclination à aimer le bien, je la détourne vers quelque chose de moins bien, voire de mauvais. Celui qui est petit dans ses inclinations à aimer, le sera aussi dans son inclination au péché. Je ne veux pas dire que ceux qui font des petits péchés sont nécessairement des gens qui n'ont qu'une petite inclination, hein, mais peut-être aussi une grande vie de conversion. Hein. Mais Celui qui est capable d'une petite capacité à aimer, ben, pêchera petitement. Petit péché, petit bras. De sorte qu'un grand pécheur est en réalité quelqu'un dont les bonnes inclinations sont également grandes. Les plus grands pécheurs ont en eux ce qui fait les plus grands saints. C'est une phrase du bienheureux Jean-Joseph Lataste, qui était un grand dévot de Sainte-Marie-Madeleine, justement. Les plus grands pécheurs ont en eux ce qui font les plus grands saints, et réciproquement. C'est l'illustration d'un bon vieux principe, corruptio optimi pessima. Corruption du meilleur est la pire des choses. Plus une chose est bonne, plus sa corruption est mauvaise. Et ça peut être très réjouissant, ou très encourageant, face à notre péché, quand on le trouve effroyablement lourd, vaste, etc., se dire, oui, en fait, il est le signe qu'il y a quelque chose d'immensément bon dans mon cœur. Marie-Madeleine en est le témoin. Troisième leçon, quelque chose doit nous surprendre quand même dans cet évangile, qui est qu'on nous parle de l'amour de Marie-Madeleine, et conclusion, ta foi t'a sauvé. Un petit saut quand même. On ne dit pas « ton amour t'a sauvé », non, « ta foi t'a sauvé ». En fait, cette mention est parfaitement cohérente. Lorsque le Christ souligne la foi de cette femme, il vise tout d'abord les témoins de la scène, ceux qui sont à table avec lui, qui sont justement des incrédules, qui est-il celui-là, qui sont des incrédules et qui sont sans amour. À l'opposé, c'est la foi de cette pécheresse qui lui a permis de bénéficier du salut. Si cette femme s'est présentée humblement humiliée devant lui, c'est sous la motion de la foi. Elle a cru en la messianité, voire en la divinité, pourtant on ne sait pas exactement ce qu'elle discernait encore à l'époque, mais au moins en la messianité du Christ. Elle avait la certitude qu'il représentait Dieu, qu'il aimait les pécheurs, c'est ce qu'on dit juste avant, quelques versets plus haut, on dit « le Christ est un ami des pécheurs et des publicains ». Elle savait qu'il aimait les pécheurs et qu'il était un créancier généreux et accessible. Elle savait que sa plaie, aussi grande soit-elle, n'empêcherait pas le Christ de la guérir. Elle manifeste ainsi non seulement son amour, mais aussi sa foi et son espérance, l'espérance d'être sauvée. Elle espère, pour ce motif, qu'elle croit en l'amour de Dieu. C'est cette foi qui fait vraiment cette pierre d'attente que j'évoquais tout à l'heure, chez Marie-Madeleine. La foi n'est pas la cause du miracle, mais la pierre d'attente qui permet d'accueillir le miracle, qui vient de Dieu. Grand B, le contraste avec Simon le pharisien. Ne perdons pas de vue, en effet, que la scène qui nous est racontée est une scène à trois personnages. Nous n'en retenons habituellement que deux, justement, le Christ et Marie-Madeleine. Un peu comme dans la parabole du fils prodigue. On retient le père et le fils prodigue, on oublie le fils aîné. Et ici, on oublie souvent Simon. La parabole nous révèle ici que Dieu, bon créancier, accorde gracieusement son pardon et que le débiteur, même antipathique, est toujours capable d'amour et reste toujours aimé. Et ça aussi, c'est bon de ne pas l'oublier. Simon, orgueilleux, méprise et condamne en son cœur cette femme prosternée aux pieds du Christ. Le Christ, lui, reconnaît qui est vraiment cette femme. Et il invite le pharisien à discerner la signification des gestes qu'elle a posés. Quand il lui dit « Je suis entré, elle a fait ça, tu n'as pas fait ça », il ne veut pas simplement montrer qu'elle a fait ce que Simon n'a pas fait. Il veut montrer qu'elle a fait plus que ce que Simon n'a pas fait. Et qu'elle manifeste ici un amour sous forme de religieuse vénération. Elle manifeste, et à travers cela, le Christ montre que les plus grands pécheurs vont ainsi être plus sincères dans leur désir de purification, plus fervents dans leur charité. Et donc il n'est pas surprenant que le Christ en tienne compte pour accorder la rémission de la dette. Simon est effectivement le type même de celui à qui on pardonne peu. C'est-à-dire, et ça c'est un peu rude parfois à entendre pour nous, en fait, celui qui s'estime vertueux. Je n'ai pas dit celui qu'il est, je lis, qui s'estime vertueux. Le fidèle observateur de la loi qui n'a rien à se faire pardonner. Celui-ci aimera peu et il n'aimera que d'un amour de reconnaissance, c'est-à-dire une forme de justice, c'est tout ce qui va lui être accessible. C'est un peu la manière dont on peut aimer Dieu quand en fait on attend de lui simplement qu'il nous donne bonne conscience. Je mène ma vie chrétienne en évitant de trop pécher, et puis si j'ai péché, je vais me confesser, l'objectif c'est juste que j'ai la conscience en paix. C'est pas la dynamique de l'amour. Je cherche à aimer Dieu à chaque instant, et effectivement, si je pèche, je vais me confesser, mais pas pour avoir la conscience en paix, mais parce que je regrette d'avoir offensé Dieu et que je veux le lui manifester. Ce pharisien devait donc se figurer qu'il n'avait pas grand-chose à se faire pardonner, et c'est précisément parce qu'il croit ne pas avoir grand-chose à se faire pardonner qu'il aime si peu, et qu'il ne retient pas cette leçon formulée ensuite par saint Augustin, peut-être qu'il n'a pas commis de grands péchés, mais qu'il reconnaisse que c'est la même miséricorde qui l'empêche d'avoir commis tous ses grands péchés, et non pas sa propre justice. Grand C, parce qu'il nous faut avancer et conclure, grand C, Marie, une femme unifiée. J'ai évoqué au début de cette conférence donc, la question de la distinction, de la pluralité ou de l'unité des maris dans l'Évangile, en soulignant que si nous intégrons le donné théologique et psychologique dans le spectre de la réflexion, l'unité semble être assez cohérente. Marie-Madeleine est une femme pécheresse habitée de sept démons. J'ai souligné que c'était l'image d'une totalité. Sept, c'est aussi un chiffre de multiplicité. Marie est une femme divisée, tiraillée. C'est d'ailleurs la conséquence propre du péché originel. Le péché originel est venu rompre l'unité de notre cœur et par suite notre unité, notre union à Dieu. Depuis le péché originel, nous sommes divisés, brisés. En rencontrant le Christ, Marie-Madeleine retrouve un principe d'unité. Elle retrouve un principe d'unité qui est son union au Christ, et de là, elle refait son unité intérieure. Ou plutôt, le Christ refait en elle son unité intérieure. Cela nous donne une autre clé de lecture et de compréhension relative, à propos de Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. La grande scène, il y a deux grandes scènes emblématiques avec Marie de Béthanie. Il y a la résurrection de Lazare, dans l'évangile selon saint Jean, et il y a dans l'évangile selon saint Luc, Marthe, Marthe, tu t'agites. Vous voyez la scène. Bon. Vous savez que classiquement, cette scène est interprétée pour mettre en valeur la distinction entre la vie contemplative, Marie, et la vie active, Marthe. Étant donné que la quasi-totalité des pères de l'Église ont défendu cette vision-là, je n'oserais pas la contester. Elle est sûrement bonne. Mais elle passe à côté d'un élément essentiel. Cette distinction entre action et contemplation n'est en fait qu'une distinction seconde. Ce qui est sous-jacent à cela, et ce qui est vraiment la ligne de fracture entre les deux, c'est que nous avons d'un côté Marthe, qui s'agite pour beaucoup de choses. Elle est accaparée par toutes les activités du service. Marthe, c'est le type même de la femme, de la personne, femme ou homme, peu importe, éparpillée, diverse, divisée. Elle est éclatée. À la différence de Marie-Madeleine, qui, elle, a choisi l'unique. Marie a choisi l'unique part. Elle est une femme unifiée. Et c'est justement parce qu'elle est unifiée au Christ qu'elle est unifiée à elle-même, et du coup, il n'y a plus de dispersion. On peut être très profondément unifié et y avoir à côté de ça une foultitude d'activités, cela n'empêchera pas d'être unifié et d'être présent au Christ. Mère Teresa, une femme profondément unifiée et plutôt active. Inversement, on peut ne pas en faire beaucoup et ne pas être très unifié. Je ne donnerai pas de nom. Et on voit là déjà la cohérence qui commence à se faire. Et c'est justement parce que cette femme, qui était divisée par le péché, qui a retrouvé son unité grâce au Christ et en lui étant unie, c'est justement cette femme qui, du coup, grâce à tout cela, n'a qu'un désir, c'est ensuite témoigner de l'œuvre du Christ dans sa vie et notamment témoigner de cette nouvelle extraordinaire de la résurrection. En fait, et c'est pourquoi il est bon, je crois, de tenir l'unité des trois maris, c'est que de ces trois femmes, puisqu'il n'y en a qu'une, il y en a que deux qui s'appellent Marie dans le tas, de ces trois femmes résument tout le parcours de notre vie chrétienne et donc de notre conversion. Le constat que nous sommes de pauvres pécheurs, que ces pécheurs sont aimés de Dieu et d'un amour infini, et que lorsque nous accueillons cet amour, alors nous sommes unifiés parce que nous sommes unis au Christ, et que lorsque nous avons découvert la valeur infinie de cet amour, alors nous n'avons qu'un désir, c'est de l'annoncer aux autres. Conversion, contemplation, prédication. Ce qui nous montre, pour le dire autrement, que la conversion de Marie-Madeleine ne se limite pas à être simplement un épisode, le moment où elle passe du côté obscur de la force au côté lumineux, le moment où elle se met à porter une robe blanche, comme les élus dans l'Apocalypse, mais c'est toute sa vie, et qui aboutit jusqu'à la prédication. Le phénomène de conversion nous conduit à un changement radical de vie qui s'exprime par le fait que nous témoignons de l'amour du Christ pour nous et pour les hommes. Je ne peux que vous inviter à méditer sur cette figure de Marie-Madeleine et à lui demander cette grâce de conversion, de contemplation et de prédication. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Prêt à y répondre, prêt à essayer d'y répondre, pour être plus précis.
Vous avez fait une distinction donc entre les deux types d'amour, si on veut dire, donc de deux types de personnes, c'est-à-dire le pécheur qui sera plutôt mû par la contrition par rapport à Dieu, et le juste qui, lui, ressentira une sorte de reconnaissance. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut être... J'ai deux questions. D'abord, est-ce que c'est possible d'avoir une conversion sans contrition? Est-ce que c'est concevable? Et deuxièmement, comment est-ce que ce serait possible pour le juste d'aimer autrement que de Dieu, une sorte de reconnaissance un peu faible, un peu molle?
Alors...
Et ou bien est-ce que la solution, c'est en fait tout juste? Comme Simon le pharisien vous l'avait dit, et en fait quelqu'un qui s'estime à tort vertueux, et qu'en fait tout juste est un grand pécheur qui s'ignore.
En fait, la réponse est là. En fait, c'est que le problème, c'est pas d'être juste, c'est de se croire juste, et de se croire juste en raison des œuvres que j'ai pu accomplir. Je suis fidèle à la loi, j'ai évité de pécher. Je pêche pas trop, j'ai évité de pécher, et j'ai réparé quand j'ai péché. Et donc, je me crois juste. C'est là que ça va être problématique. Parce qu'en fait, du coup, j'ai plus vraiment besoin de la miséricorde de Dieu. Si en revanche, je suis conscient que soit j'ai effectivement péché et que la miséricorde me relève, ou soit je suis un pécheur en sursis et que la miséricorde de Dieu m'empêche de tomber, et ce que dit d'ailleurs Sainte Thérèse de Lisieux, elle m'empêche de tomber parce que si je tombais, je n'aurais même pas la force de Marie-Madeleine de me relever, donc c'est-à-dire que je suis encore plus faible, encore plus fragile, donc encore plus pécheur, ben ça change tout. Donc je crois que ça suppose par derrière, effectivement, d'avoir une très grande humilité, de reconnaître que nous sommes de pauvres pécheurs. Et de le reconnaître, en fait, pour nous en émerveiller. Ce que dit saint Paul, « Je me glorifie de mes faiblesses ». C'est ça ce qui nous est difficile. Nous, on a du mal à les accepter. Alors déjà, les accepter, c'est dur, mais alors les aimer, n'en parlons même pas. En fait, ce serait la dynamique dans laquelle il faudrait tendre. Cette humilité qui est « Je reconnais que je suis un pauvre type et je m'en réjouis ». C'est tellement génial. Et en fait, de fait, c'est très libérant. C'est quand même un petit peu le discours de beaucoup de saints. Qui se rendent grâce, et justement parce que plus on se rend compte qu'on est un pauvre type, plus on est émerveillé d'être aimé. Si j'étais merveilleux, qu'est-ce qu'il y aurait d'exceptionnel à ce que Dieu m'aime? C'est un peu normal, je suis tellement merveilleux. Si je suis un pauvre type, il faut vraiment qu'il soit Dieu pour m'aimer. Donc c'est effectivement, en fait, le fait d'être juste, parce que celui qui est juste, c'est différent. Mais celui qui est juste a justement la conscience qu'il est justifié par Dieu et qu'il ne mérite rien dans tout ça. C'est clair ? Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions.
Mais à ce moment-là, cette connaissance, d'où est-ce qu'il la tient ? C'est seulement un don de la grâce.
Alors, c'est un don de la grâce que j'ai accueilli, que j'entretiens, que je cultive, que je peux découvrir. Et après, c'est là où va jouer tout le mécanisme de la contrition, qui est la marque propre de la conversion. Donc, il ne peut pas y avoir de conversion achevée sans passer à un moment ou à un autre par une contrition. Mais qui va commencer... notamment si je ne suis plus en état de grâce, je ne suis pas capable d'exprimer un mouvement de contrition, puisque la contrition, c'est la réaction de la charité face au péché. Si je ne suis plus en état de grâce, il n'y a plus de charité, donc il n'y a plus de contrition possible. Du coup, ce qui met en mouvement le pécheur, ça va être ce qu'on va appeler l'attrition. Donc une contrition imparfaite. Une contrition imparfaite qui regrette le péché, non pas parce qu'il a offensé Dieu, mais en fait parce qu'il m'a blessé, parce que je ne suis pas fier, parce que j'ai honte, parce que ceci, parce que cela. C'est intéressant de se poser la question d'ailleurs quand je me confesse et dans mon péché. Est-ce que ce qui m'accable le plus, c'est de savoir que j'ai offensé Dieu? Et c'est vraiment ce qui m'accable le plus. Théoriquement, oui, je suis capable de le dire, mais est-ce que dans ce que je vis, c'est vraiment ça ce qui m'accable? Ou est-ce que c'est juste que j'ai honte, je ne suis pas fier, ça m'embête, etc. Pour être très honnête, c'est un peu mélangé quand même. C'est au mieux un peu mélangé. Bon. Et on a un très bon modèle justement dans la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, c'est l'exemple type de l'attrition. Il ne revient pas voir son père par amour pour son père. Il revient voir son père parce qu'il a envie de bouffer. C'est tout. Je n'ai même pas la nourriture des porcs, mais les ouvriers de mon père mangent mieux. Je rentre chez mon père parce que j'ai envie d'avoir de quoi manger. C'est vraiment de l'attrition pure jus. Hein. Mais ça a suffi à le mettre en route. Et ça suffit pour ouvrir son cœur ensuite... à la miséricorde du Père. Oui, ça répond à votre question.
Quand je présenterai les choses, ça revient un peu au même, mais c'est pas que très donné tout à l'heure. C'est-à-dire que, bien sûr, le péché, il faut le définir par rapport à l'amour. Tout péché blesse infiniment l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est infini. Mais il ne suffit pas de ne pas pécher pour aimer.
Oui.
Je pense que c'est ça le problème.
Mais oui, c'est ça.
Le juste, on peut dire, bah oui, j'ai pas fait. Enfin, on peut être juste au sens, c'est la différence qu'il y a entre un juste et un saint.
Oui.
Quelqu'un peut être, pas simplement se croire juste parce qu'il a une conscience épaisse, ce que provoque le péché d'avant, épaissit la conscience, mais être vraiment juste au sens où le gars, prend des calories, il dit, bah non, je coche toutes les cases. Oui. Mais ça fait pas un geste d'amour vrai, oui. Ça. Et je pense que justement, dans la sainteté, réussir à bien situer le péché,
oui.
Pas le minimiser trop, mais pas non plus dire mais il suffit de pas pécher et je suis saint, ben ça c'est important. Ça revient
un peu. Ça revient à la même question. Et en fait, il y a un peu une illustration de cela, enfin une image qu'on pourrait prendre, c'est comme le mari qui dit « Ah non, mais moi j'aime ma femme, je la bats pas ». Non, c'est un peu léger pour dire que j'aime ma femme quand même. Enfin, c'est un peu le même principe. J'aime ma femme parce que je pose des actes d'amour pour elle. Et non pas simplement parce que je m'abstiens de la battre. Ce qui est certes un degré... c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Vous voulez poser une question ?
Oui, je voulais revenir en fait encore au paradoxe, ou se disant paradoxe entre la parabole et ce qui se passe véritablement. Parce qu'il me semble, est-ce que dans la parabole, ce qu'il dit finalement, Jésus n'explique pas, il explique l'amour une fois que le péché est pardonné. Il n'explique pas, c'est une chose distincte que d'aimer Dieu et de regretter son péché. C'est pour ça qu'il y a pas, il me semble qu'il n'y a pas de contradiction. Je ne sais pas, il n'y a peut-être pas de contradiction, non ? Si on se dit que Marie-Madeleine, elle regrette son péché, et après, la parabole nous explique pourquoi, après, Jésus pardonne, et à cause de ça, ça nous explique pourquoi elle aime Dieu. C'est-à-dire que la parabole, elle n'essaie pas d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a regretté son péché. Elle essaie plutôt d'expliquer ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'une fois que le péché est pardonné, par Jésus,
oui.
Elle va se relever. C'est un peu la confession,
oui.
Elle se relève, c'est pas ça?
Ben, en tout cas, la parabole dit.
Le péché. Non, mais la parabole, elle est écroulée pile à Simon.
Oui.
C'est donnant. En fait, c'est vraiment très fin ce que Jésus
parce que... Ah mais oui. souvent d'ailleurs, hein, souvent.
La grandeur, le fait que comme Simon, il est juste au sens où il est un peu dans cette mentalité du donnant.
Oui.
La seule parabole qu'il peut, il peut pas comprendre, la vraie parabole qu'il y a en art, qui est Marie-Madeleine, cette parabole-là, il peut pas le voir. En revanche, Jésus, là, c'est un auteur, il propose un truc plus facile à comprendre. Oui. Mais c'est pas le même amour, en fait.
Non.
Il s'agit dans la parabole.
Oui.
Et suite.
C'est justement cet amour de reconnaissance. Et en fait, c'est exactement la même présentation que dans la parabole du fils prodigue, où encore une fois, on retient surtout le lien père-fils prodigue, alors qu'en fait, celui qui est visé, c'est le fils aîné, puisque cette parabole est justement une réponse aux pharisiens qui s'insurgent de ce que le Christ fait bon accueil aux pécheurs. Donc on a exactement la même logique. C'est les pharisiens récriminent, le Christ prend une parabole dont nous on retient un aspect qui certes était exceptionnel et qui nous émerveille parce que c'est de fait ce qu'il y a de plus beau, mais qui en même temps est une réponse adaptée à l'interlocuteur qui ne peut pas comprendre une autre logique. Parce que dans cette parabole, il y a quand même cette idée que celui qui aime plus, c'est celui à qui on a pardonné. Donc l'amour est la conséquence du pardon. Ça, c'est l'enseignement littéral de la parabole et c'est ce que Simon a très bien vu. Et d'ailleurs, la réponse en fait de Jésus quand il lui pose la question et que Simon répond, bah, celui je pense auquel il a fait plus grâce le plus. Et Jésus qui lui dit tu as bien jugé. En fait, c'est cinglant parce que la formulation qui littéralement c'est ça, mais sous-entendu c'est tu t'es bien jugé.
C'est génial ce que fait Jésus.
Parce
que Simon, d'ailleurs, parce que je trouve ça hyper beau, parce que j'ai vu ce mal à la hauteur de Simon.
Oui.
Et après, Simon, en fait, il va se poser la question, parce que c'est posé, la petite Thérèse dit, mais du coup, moi je pense que c'est vrai que Simon, c'est un brave type, je pense qu'il donnait beaucoup de
l'église,
je pense qu'il disait pas, il battait pas sa femme, et du coup, il sort de là en disant, mais comment je peux faire pour aimer Dieu alors? Et c'est là qu'il doit comprendre la folie de ce qui s'est passé devant lui.
Oui.
Que ça change
plus, ah ben oui. Alors là où j'irai dans votre sens, c'est qu'effectivement il y a une apparence de contradiction, mais il n'y a pas contradiction. Mais de fait, simplement qu'il y a deux registres d'intervention dans la réponse du Christ. En tout cas, une réponse qui peut se comprendre à différentes lectures selon qu'on est plutôt position Marie-Madeleine, plutôt position Simon. Donc il y a ce qui peut être relevé d'une contradiction, et c'est ce que j'essayais de montrer justement, c'est qu'en fait c'est qu'une contradiction apparente. Non.
Bah, en fait, je veux juste dire, parce que je veux juste me demander, parce que repentir des péchés et amour du Christ, c'est deux choses différentes. L'amour du Christ implique de repentir des péchés, mais je peux quand même me repentir de mes péchés sans aimer. Je peux mentir. Est-ce que c'est possible?
Eh bien, ça va être là la distinction entre l'attrition et la contrition, justement.
Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment.
Si.
Je peux quand même savoir que c'est Dieu, je peux avoir foi en Dieu et quand même pécher contre lui.
Oui. Mais si je vais mais ça d'accord. Mais ensuite,
Je peux regretter mon péché.
Ah ben je peux le regretter.
Sans l'aimer.
Oui, bien sûr. Mais ça va être ça l'attrition justement. L'attrition, le fils prodigue qui revient, il revient pas par amour de son père.
Qu'est-ce qui est le moteur spirituel de ton repentir? Est-ce que c'est la crainte de l'enfer? Et c'est déjà pas si mal, hein. Si les gens craignaient plus l'enfer, donc confessez-nous, c'était plus plein. Ou est-ce que c'est l'amour de Dieu en tant que tel, tu vois?
Oui.
Les deux produits de repentir. Mais c'est pas le même moteur spirituel.
Je peux quand même me repentir.
Mais bien sûr.
En regrettant d'avoir offensé Dieu, sans pour autant.
Oui. Oui. Alors, si je regrette de l'avoir offensé, si c'est vraiment de l'avoir offensé, c'est déjà un acte d'amour. Regretter l'avoir offensé, c'est déjà quelque chose qui relève de l'amour.
Parce que là, tu regardes Dieu,
Parce que je regarde Dieu, justement.
Tu regardes pas les conséquences que tu vas avoir pour toi.
Alors, ce qui est un petit peu compliqué derrière tout ça aussi, c'est que le cœur humain n'est pas un cœur chimiquement pur. Et qu'il n'y a pas une ligne de démarcation très nette en nous. Et donc, quand nous regrettons nos péchés, tout peut se mélanger. Donc, du coup, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une démarcation très claire et mettre dans une case.
Vraiment, tout clair, parce que, comme on dit, la condition parfaite fait qu'on n'avait pas besoin d'aller se confesser, c'est exactement le cas de Marie-Madeleine, alors que le bon Simon, il ne faut quand même pas trop accabler. Peut-être que lui, il aura l'attrition qui permettra d'aller se confesser.
Il faut le lui souhaiter, en tout cas.
Selon moi, pourquoi on dit que Simon le Pharisien, le fils aîné du fils prodigue,
c'est des justes, alors que précisément ils sont pleins d'orgueil.
Ah ben, c'est des justes, ce sont ceux qui se pensent justes, encore une fois. Ouais, c'est ça. C'est, quand je dis ce sont les justes, c'est de façon raccourcie. Ce sont ceux qui se pensent justes et qui se positionnent comme justes.
Mais dans le fond, c'est les pires pécheurs.
Ah ben, on est d'accord.
Mais je ne suis pas si sûr que ça. Enfin, je trouve que autant dans la parole du pharisien et du publicain, on voit bien qu'il y a quelque chose de sombre là.
Mais chez Simon, ça peut être plus nuancé.
Chez Simon, moi, je trouve que c'est justement, je trouve que cette lecture un petit peu protestante, je dirais, de dire à partir du moment où je me pense juste, c'est que c'est l'essence du péché de se penser juste, indépendamment du fait que je sois juste ou non, je trouve que c'est un peu trop facile. Il y a de fait des gens, peut-être parce qu'ils n'ont pas de grands désirs, de grandes pulsions, ou je ne sais pas quoi, mais ils ne commettent pas beaucoup de péchés.
Oui, là, on voit quand même, enfin, dans le cas de Simon Pharisien, on voit quand même juger Jésus en prenant Jésus de très longs jours. Oui, lui, s'il savait que c'était, il ne laisserait pas.
Oui, mais c'est pas ce que Jésus lui reproche. Ouais. Je me dis, si la pointe de l'enseignement de Jésus, c'est de nous dire méfiez-vous, c'est précisément quand vous croyez que vous êtes sans péché, que vous en faites le plus gros, le genre de truc, après, je trouve qu'il y a aussi une espèce de cercle psychologique bizarre. Parce que, à partir du moment où tu crois que tu es saint, ça prouve que tu l'es pas. Enfin, je trouve que c'est pas si réglé. Je trouve que la pointe de cette enseignement, je ne sais pas ça. Je ne dis pas que ce réflexe peut pas exister. Il y a des gens de fait qui sont très aveugles sur leur péché, qui sont très orgueilleux. Mais ça marche vraiment. D'après ce que j'ai eu des théories spirituelles, c'est les grands saints, des moines qui ont fait 40 ans de désert. Je pense que c'est un tout autre problème. C'est un tout autre problème spirituel. Et c'est pas ce que dit Jésus. En réalité, ce que dit Jésus dans cette parole, c'est que c'est beaucoup plus. Cette question de « il ne suffit pas de ne pas pécher pour être dans l'amour fou que Dieu donne. » Sinon, il aurait été plus clair, Jésus.
Puis ça nous aurait évité des heures de débat.
En tout cas, c'est pour vous. Merci beaucoup.
Je vous en prie.